féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Inde, une mère et sa fille ont été tuées par trois hommes après des accusations de sorcellerie dans l'état de Jharkhand le 26 juin dernier. Un des hommes a dit aux villageois qu'elles étaient responsables des décès et des maladies dans le village, a déclaré la police. Plus de 2000 personnes, dont une majorité de femmes, ont été tuées en Inde en une dizaine d'années à la suite d'accusations de sorcellerie, selon le Bureau national du casier judiciaire. Certains États ont adopté des lois spéciales pour mettre un terme à ces crimes. Par ailleurs, le même jour, dans l'État voisin du Bihar, une mère et sa fille ont été tondues et exhibées dans leur village après avoir résisté à une tentative de viol par un groupe d'hommes. Un représentant du village, Mohammad Khurshid, est entré de force avec des acolytes dans la maison des victimes pour violer la jeune fille de 19 ans, selon la police. Alors qu'elle et sa mère résistaient, elles ont été attaquées et amenées à un coiffeur pour être rasées. Une Américaine qui a fait une fausse couche après avoir été blessée par balle a été arrêtée et inculpée d'homicide par la justice de l'Alabama qui lui reproche d'avoir causé la mort du fœtus. Marche Jones a été blessée par une autre femme lors d'une bagarre en décembre dernier. C'est la mère de l'enfant qui a alimenté la bagarre, avait alors déclaré le chef de la police locale Danny Ride. L'auteur des coups de feu avait été inculpé, mais le jury a abandonné les charges contre elle en les imputant à Madame Jones, qui a été placée en détention le 26 juin. Sachez que le maire de Kyoto au Japon a écrit à Kim Kardashian pour lui demander de ne pas appeler sa gamme de lingerie kimono. En dévoilant sa nouvelle gamme de sous-vêtements, la star américaine de télé-réalité a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux où elle a été accusée d'appropriation culturelle. Sur Twitter, le débat fait rage avec le hashtag KimOno. Le kimono est une robe traditionnelle façonnée par les richesses de notre histoire et de notre nature, souligne Desaku Kadokawa. La responsable culturelle de Kyoto, Mai Sakai, a expliqué que la ville était inquiète de la diffusion d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le kimono en raison de la puissance d'influence de Madame Kardashian.
Parole de femme.
Le Tchad a abrité en juin dernier une conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone. La rencontre visait à promouvoir des pratiques éducatives dénuées de stéréotypes sexistes. Retour sur ce forum à travers un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
À travers la rencontre de N'Djamena, les partenaires de l'éducation et l'Organisation internationale de la francophonie s'engagent à réduire les inégalités et les disparités de genre en luttant contre toute forme de discrimination basée sur le sexe.
Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé des actions fortes
à la fois sur le terrain politique, institutionnel et pédagogique.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, ses actions sont entre autres la loi 29 interdisant le mariage des filles mineures, l'instauration des prix d'excellence pour encourager les filles à finir leur cursus scolaire dans un pays où plus de 86% des femmes sont analphabètes. Toutefois, le président Déby reconnaît qu'il reste beaucoup à faire.
En 1991, on comptait certainement moins de 10 000 filles. Dans certaines régions, quand vous partez dans les classes, vous avez plus de filles que de garçons aujourd'hui. Mais à partir de ces premiers cycle, il y a une sorte de chute vertigineuse du nombre de filles. Donc, il faut que nos filles soient nombreuses à investir le territoire des écoles, collèges et lycées.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Musikiwabu, exhorte les États membres de son organisation à doubler d'efforts pour que les filles aient le même niveau d'instruction que les garçons.
Nous devons tout faire pour que l'éducation des filles soit portée par nos sociétés, dans le respect de nos traditions, dans le respect de nos pratiques, et nos pays n'attendent que ça. Des préjugés tenaces considèrent que l'éducation s'adresse en priorité aux garçons qui doivent devenir de bons chefs de famille. Il nous faut agir ensemble pour y mettre fin.
Le président Déby rassure ses partenaires qu'un signal fort sera lancé à l'issue de cette rencontre à toute la communauté francophone pour la scolarisation massive et le maintien des filles à l'école au même titre que les garçons. Car, dit-il, beaucoup des pays francophones dont le Tchad sont à la traîne de cette réalité. André Kodumadjingar Ndjamena, VOA Afrique.
En 2010, l'ONU a adopté la journée mondiale consacrée aux femmes veuves, fixée le 23 juin, sur proposition du Gabon. Mais près d'une décennie après, les conditions de ces femmes dans ce pays d'Afrique centrale ne se sont guère améliorées, comme dans plusieurs pays où elles vivent une précarité grandissante à la mort de leur époux. Un sujet de société traité par Ismaël Obiang Nze à Libreville.
8 ans après l'instauration de la Journée internationale des veuves, le Gabon peine à devenir un modèle dans la protection des veuves. Simone Messa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.
Le législateur a mis en place l'arsenal juridique pour protéger le conjoint survivant. Mais des pesanteurs sociales, iniques, injustes, persistent. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, elles sont tout simplement bafouées. Bien souvent, les personnes spoliées, parce qu'elles sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques, préfèrent se taire.
Conséquence, la spoliation des veuves persiste et rien ne semble en mesure d'éradiquer ce phénomène. Le témoignage de Félane, épouse Mawamba, veuve depuis 2016.
Que nous les étrangères, quand le mari décide, donc ça devient autre chose. Quand mon mari a décédé, la belle famille, ils ont refusé de faire le conseil de famille. Mais grâce aux nouvelles lois qui sont sorties, donc comme il n'y a plus le conseil de famille, mon dossier est passé au tribunal et j'ai eu mes droits. Je suis passée par le tribunal, j'ai eu le procès verbal, j'ai eu tout mes papiers. Mais lorsque j'ai déposé mon dossier, arrivé jusqu'à la solde, il n'y a rien jusqu'à présent. Et pourtant, mon mari était un fonctionnaire, il était militaire. Donc là, je ne comprends pas pourquoi.
C'est une situation parmi tant d'autres qui place les tribunaux devant des difficiles arbitrages. Honorine Zébitégué, magistrate.
Dès que la femme tombe malade, on la prend, va la jeter chez ses parents et vice-versa. Là, nous sommes dans l'indignité successorale. Mais le tribunal n'est pas au quartier. Les associations, il faut qu'on nous saisisse pour donner des renseignements.
Selon les services en charge de la prévoyance sociale au Gabon, près de 1000 plaintes pour spoliation ont été enregistrées entre 2015 et 2018. Libreville, Ismaël Obianze, VO Afrique.
Les membres de l'élite en Grande-Bretagne sont 5 fois plus nombreux à avoir étudié dans des établissements privés que la population dans son ensemble, indique une étude publiée le 25 juin dernier. Tandis que seulement 7% des Britanniques ont fréquenté des écoles privées, c'est le cas de 39% des personnes exerçant des emplois haut placés, selon le Sutton Trust et la Commission sur la mobilité sociale. Cette étude montre aussi que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines étudiés.
Si jeunesse pouvait.
La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, commémorée tous les 26 juin, a été marquée au Burkina Faso par l'organisation d'une conférence sur la question et une séance d'incinération de drogue dure en périphérie de Ouagadougou. Des jeunes du pays ont décidé de soutenir les efforts de l'État en sensibilisant leurs pères, première victime de ce fléau universel. Notre correspondant dans la capitale burkinabé, Issa Napon, nous en dit plus.
Pour la seule année 2018, le Burkina a saisi plus de 10 000 tonnes de cannabis, plus de 5 000 grammes de cocaïne et plus de 18 000 kg d'héroïne contre plus de 75 000 tonnes de médicaments prohibés. Il faudra davantage miser sur la sensibilisation, selon la secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la drogue, la commissaire de police Pelagie Konsebo.
On a réussi à rassembler les structures opérationnelles pour un renforcement des capacités, déjà pour nous permettre d'avoir des statistiques fiables. On a eu également à renforcer les capacités du personnel de structures opérationnelles pour procéder à des sensibilisations, collaborant également avec les associations de la société civile pour augmenter le nombre de sensibilisations de la population.
Le visage de cette volonté de sensibilisation des jeunes au Burkina Faso est sans conteste l'artiste engagé Youssouf Sawadogo alias Oskimo. Loin des salons feutrés, l'artiste qui se droguait dans une autre vie a acquis une certaine notoriété dans la lutte contre la drogue avec sa caravane dénommée Oskimotour.
Ça nous fait 12 ans déjà que nous sensibilisons la jeunesse burkinabé et africaine. En tant qu'artiste, je me suis dit avec la musique, on pouvait vraiment teindre les jeunes, étant aussi quelqu'un qui a consommé la marijuana et d'autres substances dans le passé. Il y a plus de 15 ans, 20 ans aujourd'hui que j'ai arrêté.
Véritable problème de santé publique, les conséquences de la consommation de la drogue font l'objet de projets pour enquêter et dégager des statistiques afin de mieux orienter les décisions. Oskimo, qui arpente les villes et les campagnes à travers sa caravane, avait juste sa forte motivation comme seul soutien.
Ce qui m'a mis dedans, beaucoup étaient en train de mourir, aller en prison, d'autres étaient devenus fous. Quand je suis arrivé au Burkina pour la première fois en 2002, je voyais des jeunes qui avaient pété des plombs. J'ai dit, on dirait que mon projet doit continuer ici.
Oskimo est engagé dans un programme national qui encourage les parents à être à l'écoute de leurs enfants et la société dans son ensemble à prévenir des dangers de la drogue et développer la confiance en soi chez l'enfant et le jeune. 11 ans après, l'artiste se dit satisfait du chemin parcouru.
On a dépassé la barre des 50 000 parce que les étudiants ont été touchés par Oskimo Tour, les élèves dans les lycées, l'école primaire, j'ai été invité pour faire des formations parce qu'aujourd'hui, le tabou est en train de vouloir quitter. Et aujourd'hui, moi, j'ai rencontré plein de femmes dedans, qui ont les enfants dedans. Beaucoup veulent les mais ils sont déjà devenus des toxicomanes.
Oskimo plaide pour l'ouverture d'un centre spécialisé et adapté à ce phénomène au Burkina Faso. L'artiste espère l'aboutissement de son vœu de zéro drogue à terme et ne plus avoir, comme c'est le clou à chaque journée internationale de lutte, à incinérer en plein air officiellement des drogues saisies, preuve de la résistance du phénomène. Et c'est un appel Ouagadougou, VOA Afrique.
Et puisque nous sommes dans la récapitulation des journées mondiales dédiées aux femmes et aux jeunes, revenons sur celle de l'enfant africain, commémorée le 16 juin dernier. Instituée en 1991, elle rappelle le souvenir de centaines d'enfants sud-africains tués par le régime de l'apartheid à Soweto, lors d'une marche pour leurs droits en 1976. Elle marque annuellement un moment clé pour prendre conscience des fragilités de la jeunesse du continent. On retrouve Ismaël Obiangze pour un reportage sur la situation des enfants au Gabon.
Une étude officielle menée ces 5 dernières années a révélé que 77% des enfants gabonais sont victimes de violences, aussi bien dans leur milieu familial, dans leur communauté ou encore à l'école. Edith Mavioga, psychologue.
Le fait que l'enfant ne communique pas avec l'un des parents, soit le père, soit la mère, ça peut pousser l'enfant à aller dans la rue. Il faut écouter l'enfant, il faut amener l'enfant à communiquer, à dire son problème.
Protéger ces êtres vulnérables est le combat quotidien de la maison de charité Tabitha. La présidente de cette ONG se remet d'un drame familial avec la perte de son enfant en 2016. Joanna Ngondi.
Il avait déserté la maison et il s'est entiché de personnes peu fiables. Il a terminé mort avec une balle dans la tête. Donc je ne voudrais pas que ces enfants, garçons, ces adolescents puissent connaître le même sort. Non à ceux qui soient délinquants, non à la prison, non aux drogues.
L'ONG Tabitha a beaucoup contribué à la réinsertion sociale de plusieurs enfants victimes de violences ou qui sont orphelins. Un témoignage avec Daniel Medza.
L'ONG m'a permis de un peu me relâcher. Comme là, je viens de parler en public, mais avant, je ne parlais pas en public. Et ils m'ont dit de bien étudier. Alors, je commence à me plonger dans mes cahiers et je pense que j'ai réussi mon examen.
Au Gabon, une des violences coutumières est le meurtre rituel d'enfants. Jean-Elvis Ebando, président de l'association de lutte contre les crimes rituels.
Chaque année, il n'y a pas moins d'une trentaine d'élèves, des jeunes, quand j'entends par jeunes, des jeunes de moins de 18 ans, des 0 à 18 ans, qui sont assassinés. Mais le mode opératoire change actuellement. Le système en place étouffe les médias d'en parler et fait tout pour couper les robinets, empêcher aux partenaires de développement, les gens de bonne moralité, de nous soutenir.
Pourtant, le gouvernement dit œuvrer à la protection du droit des enfants. Camille Mbengandong, directrice générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales.
Le code de l'enfant vient d'être réécrit et adopté par le Parlement. Donc le Gabon a refait son code et aujourd'hui les droits des enfants sont respectés plus qu'auparavant.
Depuis Libreville, Ismaël Obionze, VO Afrique.
Et oui, et c'est la jeunesse prouvée.
L'Institut d'études politiques de Paris va supprimer d'ici à 2021 le concours d'entrée et entend renforcer ses conventions avec les lycées des zones défavorisées. L'objectif de Sciences Po est d'assurer une meilleure diversité des profils, a souligné le directeur Frédéric Millon. Désormais, tous les candidats seront évalués selon le contrôle continu au lycée sur 3 ans, la moyenne des épreuves écrites au baccalauréat, le profil du candidat et sa motivation. Les candidats admissibles passeront un entretien oral. Sciences Po souhaite aussi renforcer le dispositif de ses conventions avec les lycées relevant de l'éducation prioritaire, visant à corriger les impacts des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire. 15% des places seront réservées aux élèves ayant suivi ce parcours et 100% des élèves recrutés via ce dispositif devront être boursiers. Au total, Sciences Po s'engage à recruter 30% de boursiers.
Entre parenthèses.
Comment lutter contre les violences sexuelles en zone de conflit ? Une concertation sur cette question s'est tenue récemment à Abuja en présence du docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour ses efforts dans cette lutte, notamment à travers les soins et le soutien apporté aux victimes par l'hôpital Panzi de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Retour sur l'événement à Abuja avec notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba.
Le Nigeria est l'un des pays touchés par un conflit qui se traduit par toute forme de violence, notamment les violences sexuelles contre les femmes et les filles. Les 10 dernières années d'insurrection dans le nord-est du pays ont été marquées par une croissance des mariages forcés, du nombre de viols, l'esclavage sexuel, l'enlèvement, les attentats suicides, la conversion forcée et d'autres formes de préjudices physiques et psychologiques infligés aux femmes et aux filles. Le gynécologue congolais Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix de 2018, participe au débat.
Je suis ici à Abuja, c'est pour partager notre expérience en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés. Effectivement, avec les Boko Haram. Ils utilisent cette stratégie des viols comme arme de guerre, l'esclavage sexuel, et c'est terrible.
L'enlèvement de plus de 200 lycéens à Chibok, dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria, le 15 avril 2014, avait suscité de vives réactions et a attiré l'attention de la communauté internationale sur les crimes commis par le groupe Boko Haram. Témoignage d'une survivante, Fatima Mukhtar, qui s'exprime à l'aide d'une interprète. Elle a passé 15 mois dans la captivité avec Boko Haram.
On Sunday morning, I decided to escort my sister to the farm.
Un dimanche matin, j'ai décidé d'accompagner ma sœur au champ. Mais en cours de route, Boko Haram a pris le contrôle de notre village. Nous avions essayé de nous échapper, mais j'ai été enlevée par Boko Haram et ils m'ont obligée à épouser l'un de leurs membres. J'ai passé 15 mois en captivité.
La protection et les réparations accordées aux victimes de violences sexuelles sont actuellement minimales, estiment des participants à la rencontre. C'est le cas de Debra Okazuma.
Une décision doit être prise. Il y a eu des lois qui ont été votées. Ces lois doivent devenir effectives. Elles ne doivent pas servir seulement de documents rédigés et après, c'est tout. Quand ces agresseurs se rendent compte que ces lois seront appliquées, je pense que quelque chose pourrait commencer à se réaliser.
Tout le monde est d'accord ici qu'il est impératif d'améliorer la prise de conscience des besoins des victimes et de renforcer la volonté politique de les soutenir. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les statistiques d'organismes de la société civile au Cameroun montrent que plus de la moitié des audiences en justice concernent des litiges fonciers. C'est pourquoi une vingtaine de jeunes chercheurs francophones et anglophones ont organisé une session spéciale de formation et de renforcement de leurs capacités en la matière, qui touche principalement les femmes, dont l'accès aux terres reste très aléatoire. Emmanuel Juntap a rencontré ses experts à Yaoundé.
Ces jeunes chercheurs ont formé un groupe nommé les experts fonciers du Cameroun. Ils travaillent sur l'accès à la terre au Cameroun et les conflits qui en découlent.
Mon thème porte sur l'accès des femmes rurales à la propriété foncière, cas du village Bagom dans le département Junou.
Aude Passman Diamkoudé est étudiante en master géographie à l'université de Yaoundé 1. Ses recherches sur le foncier concernent un village de la région de l'Ouest.
C'est un village sorti des convoitises. C'est une mamelle nourricière au niveau de sa richesse de ses terres. Pour cela, il y a des conflits fonciers. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes, alors que ce sont elles qui utilisent plus ces terres pour faire les cultures. Malheureusement, en tant qu'utilisatrices, pas propriétaires, elles ne peuvent pas posséder ces terres.
Dans la région du sud-ouest en zone anglophone, l'on a enregistré dès 2013 l'un des plus importants conflits fonciers du Cameroun. Les populations locales se sont soulevées contre l'implantation de l'agro-industriel Heracles Farms, accusé d'exploitation illégale du bois après accaparement des terres. La société avait pourtant obtenu de l'État une surface de 70 000 hectares pour la production d'huile de palme. Linda Ndouanla, étudiante en master, à côtoyer les riverains de ce projet.
Le gouvernement a établi des politiques et des lois qui ne sont pas nécessairement avantageuses ou adaptées aux populations. Les populations ont leurs propres coutumes, traditions qui concernent les questions foncières. Et c'est très différent de ce que le gouvernement dit. Donc, sur le terrain, il n'y a pas de concordance de point de vue.
Avec les experts fonciers du demain, la société civile espère une meilleure appropriation des enjeux. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de montrer à des jeunes qui se sont intéressés déjà à la question foncière, c'est de leur dire, c'est très utile d'étudier le foncier du point de vue de votre discipline, mais c'est encore plus utile de comprendre qu'il y a d'autres disciplines qui s'intéressent au foncier et qui peuvent éclairer votre compréhension du foncier à partir de votre discipline.
Un complément de formation apprécié par les jeunes chercheurs.
C'est vraiment une séance très riche. Ça nous a permis de comprendre que la question foncière n'est pas seulement un problème géographique.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.